Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire Bellux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30, et le week-end, de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre, 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique, 105.4 FM, à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.
Bienvenue tout le monde, bienvenue à Radio Free Gaza pour le 21e épisode entre-temps. Donc, bienvenue Stéphanie.
Bienvenue Ed.
Voilà. Comme tous les jours, nous aurons une personne, une participante à bord de la flottille. Voilà. Bonjour Baila. Il y a notre invité qui arrive aussi, c'est magnifique. Mais nous allons d'abord passer à Sadi, qui se trouve sur un bateau de la flottille. On l'appelle.
Allô.
Allô, bonjour Sadi.
Bonjour.
Bonjour Sadi.
Voilà.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Voilà, je vais bien. Un peu fatiguée, mais ouais. Sinon ça va.
Ok. Est-ce que tu peux nous dire sur quel bateau tu es ou c'est un secret?
Non, moi je suis sur le Estrella Emmanuel.
D'accord. Ok, comme ça on peut te suivre sur le tracker en fait. Donc ça c'est chouette pour tout le monde. Écoute, on voulait prendre de tes nouvelles, notamment parce que depuis que vous êtes parti d'Italie, il y a plus d'arrêt avant Gaza normalement, c'est fini. Donc vous êtes sur le chemin direct vers Gaza. Quel effet ça fait après avoir attendu autant de temps?
Oui, nous sommes contents qu'on peut partir pour du vrai, on va dire.
Ouais.
Parce qu'on est ici pour aller à Gaza et voilà, donc ça prend beaucoup de temps à cause de plein de trucs qui se sont passés. Mm-hmm. Mais maintenant, c'est vrai, il n'y a plus de port en principe où on s'arrête. Plus de port, comment on dit, friendly port,
ouais.
Port où on peut aller parce que c'est pas facile. Le but n'était jamais de s'arrêter depuis Barcelone. C'est juste qu'on a eu quelques problèmes, le météo et d'autres problèmes. Que c'est à cause de ça qu'on s'est arrêté, mais en principe, on voulait pas s'arrêter et chaque fois qu'on s'arrête, Ça se passe selon une procédure.
Mmh. Oui, on se rend bien compte que ce n'était pas voulu et que ce n'était pas programmé, ces arrêts-là. Donc, ça veut dire que maintenant, vous voyagez en flottille, vous naviguez en flottille, c'est ça, avec tous les autres bateaux?
Oui, nous, pour le moment, on n'est pas dans le flottille parce qu'hier, on est encore allé chercher du... carburant, mm-hmm. On dit ça comme ça?
Oui, tout à fait.
Oui, donc on était dans le sud de l'Italie, je crois le port de Pozzallo, mm-hmm. Vraiment dans le sud de la Sicile. Et comme c'était vraiment en route vers Gaza, et les plus grands bateaux sont aussi des bateaux qui sont là pour aider les plus petits.
Oui.
Parce que le problème, si les bateaux ont des problèmes, on peut plus perdre du temps.
Oui, c'est ça.
Avant, on était solidaires. C'est pour cela, parfois, qu'on s'arrêtait aussi, hein, parce qu'il y avait les petits bateaux qui avaient des problèmes. Mais maintenant, on ne peut plus faire ça parce que sinon, on ne va jamais arriver à Gaza et les gens de Gaza nous attendent là. On fait le flotilla pour eux, pas pour notre plaisir.
Oui.
Et donc, nous, les bateaux qui sont un peu plus grands, ils ont un peu de nourriture, mais surtout tout ce qu'on a besoin pour les petits bateaux. Parce que s'il y a un problème, on peut vite les aller aider, mais si on ne peut pas trouver une solution, les bateaux doivent quitter le flottille.
Oui, je comprends. Oui, oui, tout à fait. Oui, 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 évidemment, je suppose que vous voyez, ou en tout cas, vous avez des moments où vous pouvez regarder un peu ce qui se passe à Gaza en ce moment. Et l'urgence est pire de jour en jour et plus grande de jour en jour. Et donc, votre arrivée là-bas, elle est très, très attendue, évidemment.
Oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est pour cela qu'on est vraiment, content parce que beaucoup de gens qui ont participé aussi, ils ont parfois du travail, ils ont laissé leur travail. Il y en a certains qui ont même perdu leur travail. Donc, ça aussi, ça peut, c'est pas le plus, enfin, c'est important aussi, hein, mais ça peut jouer aussi sur l'ambiance, quoi.
Oui, tout à fait.
Donc, je crois que c'est vraiment important d'être là. Et nous, en tout cas, on va joindre le flotilla dans quelques heures. Donc, on a pris un peu de retard, mais on va les joindre tout à l'heure.
D'accord. Et est-ce que vous avez une estimation du temps qu'il vous faudra pour arriver jusque-là ou pas vraiment, en fait?
Je crois encore 10 jours.
Ah oui, d'accord.
Ouais. Oui, oui, oui. Maintenant, on va vers la Grèce. On ne va pas s'arrêter là.
Oui.
De toute façon, je crois... Si on s'arrête à Grèce, on aura du problème parce que Grèce ne veut pas nous laisser partir,
ouais.
Je crois. Donc, le pays n'est pas vraiment, le gouvernement n'est pas tellement gentil avec nous.
Ouais.
Donc, on va quand même se joindre avec les bateaux qui partent de la Grèce.
Oui, tout à fait.
Et qui font partie de la du flottille aussi.
Oui.
Et c'est aussi très important de rester ensemble quand même.
Oui, oui, tout à fait. Et on les voit bien sur le tracker aussi. Hein. On les repère très bien sur le tracker. Donc, puisque vous avez effectivement un certain temps de retard sur le temps prévu pour la mission, est-ce qu'il y a des choses qui commencent à te manquer?
Ah
Ou pas vraiment?
Enfin... Je sais pas. Il y a beaucoup de choses qui me manquent, mais en même temps, comme on a aussi ici pour quelque chose, donc moi je pense pas à tout ça.
D'accord.
Parce que comme j'ai déjà dit, je crois, je suis dans un bateau qui n'a pas beaucoup de confort et c'est parfois très difficile, même pour cuisiner. Il y a beaucoup de gens sur le bateau qui sont malades et tout ça, donc ça me manque peut-être un tout petit peu le confort. Mais en même temps, on est là. Nous aussi, on a nos yeux sur Gaza, donc ça aide aussi.
Ouais, j'imagine. Il y a un objectif qui est très clair. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Sadi, ou est-ce que... Dis-nous.
Ouais, moi, je crois que le flotilla, c'est d'abord pour arriver à Gaza avec tout ce que nous, ce qu'on a chez nous, avec nous, dans notre bateau. Mais je crois que c'est encore aussi une manière de faire parler de Gaza et de la Palestine. Donc je crois qu'il y a 10 jours, donc il reste encore toujours plein de choses à faire dans tous les pays. Parce que là, quand je parfois lis des articles ou les journaux et tout ça, ça me rend pas toujours heureuse non plus.
Ouais.
Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire entre temps parce que s'il y a des changements entre-temps, c'est toujours mieux. Je veux dire, c'est pas seulement à nous de faire ça. Et je sais aussi, nous, il y a plein de gens partout dans le monde qui sont en train de mettre un peu de la pression. Non, comment on dit?
Oui,
la pression sur les gouvernements. Et je crois que c'est très important.
Oui, tout à fait. Et j'ajoute que la flottille, c'est un outil parmi beaucoup d'autres qu'on utilise dans le monde entier pour que les gens, les citoyens, les, les, les populations puissent marquer leur solidarité avec Gaza et pousser leur gouvernement à agir, effectivement. Ouais. Merci beaucoup, Sadi. Merci beaucoup, Sadi. Bon voyage.
Oui, merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Oui.
Voilà, c'était Sadi. Je passe une petite virgule puisque...
Il y a un petit théâtre ici. Hein.
Et entre-temps, il y a Baïla qui est arrivée avec nous au studio.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà. Baïla, est-ce que tu peux te présenter brièvement, toi et ton émission ?
Oui. Du coup, moi, je suis juive antisioniste et active dans quelques collectifs juifs antisionistes et décoloniaux en Belgique. Et j'avais voulu créer l'émission Trèfle à quatre feuilles suite à, au fait qu'au niveau des ondes radio, il n'y avait que Radio Judaïka qui était présent en Belgique pour représenter la communauté juive. Et donc c'était vraiment en réponse au fait que la seule radio juive qui est en Belgique, elle est sioniste, elle est clairement à un positionnement qui est assez clair politiquement par rapport à ça. Du fait de sa programmation musicale, du fait de sa programmation des invités. Et même si certaines personnes qui travaillent chez Radio Judaïka ne sont pas complètement sionistes, la radio en elle-même, elle a une direction politique qui est assez claire. Et l'intervention de Georges-Louis Boucher quand il y a eu l'attaque au Beiper au Liban, pour moi, c'était vraiment la goutte qui faisait déborder le vase. Et ça faisait déjà plusieurs mois que je pensais à lancer cette radio sans vraiment savoir quoi, comment, enfin... Voilà, et du coup... Et à la base, j'avais même pensé proposer une émission sur la radio Judaïka. Et je m'étais dit, allez, de faire rentrer un peu l'ennemi, rentrer chez l'ennemi, quoi. Et c'était l'idée de base, c'était de proposer une émission à Radio Judaïka. Et puis, en fait... J'ai vu que c'était pas possible, même pour moi, en fait, de soutenir même cette radio, quoi, de travailler chez eux ou proposer une émission chez eux. En fait, c'était collaborer avec l'ennemi, quoi, collaborer avec, et de me sentir même pas en sécurité, en fait, quoi, parce qu'il y a rien à faire quand on est juif antisioniste. On se fait rejeter quand même du reste de la communauté qui est majoritairement sioniste. On se fait traiter de traître, d'antisémite. Même si on est juif, on se fait traiter d'antisémite, de faux juif, de plein de choses horribles. Donc pour moi-même, ça aurait été, je me serais pas sentie en sécurité, quoi. Donc voilà, je vais plus à la synagogue aussi non plus. On est beaucoup, hein, à ne plus aller à la synagogue pour ces raisons-là aussi.
En famille, vous faites toujours les fêtes traditionnelles ?
Oui, oui, oui. Oui, ça, oui, oui. Et on a toujours eu un rapport décolonial aux fêtes juives. Parce que moi, personnellement, en tout cas, j'ai grandi plutôt avec l'UPJB. Donc mes parents étaient impliqués là. Moi, j'ai fait le mouvement de jeunesse en partie. J'ai plutôt été proche, mais il y a un moment, je trouvais quand Ajab a été créé, par exemple, moi, je trouvais que ça allait encore plus loin que l'UPJB, par exemple. Donc, il y a plein de gens qui posent la question de pourquoi Ajab s'est créé alors que l'UPJB existe déjà, mais en fait...
Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi tu parles ?
Oui, parce qu'on n'est pas tous...
pardon, c'est des collectifs juifs décoloniaux. Donc, l'UPJB, ils existent depuis 80 ans, apparemment, ça va être leur anniversaire.
L'UPJB est très connu.
Oui, mais c'est assez connu. Mais il y a d'autres collectifs en Belgique qui existent aussi. Par exemple, un Underoyot System qui a été créé par un des membres de l'UPJB, mais qui est flamand. Et donc, a été créé pour les gens, qui est plutôt un collectif trilingue, quoi, qui regroupe des francophones, des néerlandophones, pas spécialement de Bruxelles. En fait, l'UPJB, c'est très Bruxelles-centré, alors que EHJS, c'est vraiment toute la Belgique. Il y a Shabbos 24-7, qui est un collectif spécifiquement queer. Okay. Juifs et diasporistes aussi et antisionistes et des coloniales. Et puis il y a Ajab, qui est un autre collectif qui s'est créé au printemps 2024. Et en fait, c'est des gens qui se sont retrouvés lors des manifestations pour un cessez-le-feu. Très vite, en fait, il y a eu un bloc juif qui s'est créé dès la première manifestation en octobre, parce qu'en fait, nous, on avait tous senti, hein, quand il y a eu l'attaque du 7 octobre, on a eu, je pense, tous et toutes une première réaction d'effroi en tant que juifs et juives. Mais aussi, on s'est dit, c'est le début de... on savait, on avait tous prévu ce qui allait arriver, et parce qu'on suivait déjà ce qui se passait dans cette région depuis toujours, quoi. Donc c'était, en tout cas moi aussi personnellement, mais j'ai eu deux réactions quand, après le 7 octobre, c'était merde, je me sens pas en sécurité, j'ai peur que ce qui se passe là-bas soit importé en Belgique. Du coup, en tant que juge, je me sentais pas en sécurité. Je me suis dit merde, les gens vont se dire. Enfin voilà, c'est toujours la peur quand même que le conflit soit importé ici, que du coup il y ait des attaques antisémites. Ça c'est quand même une première peur que je trouve qu'on a tous et toutes, même si on est antisioniste, quoi, c'est normal. Parce qu'il y a tellement de gens qui font l'amalgame, il n'y a rien à faire. Et la deuxième réaction, qui était vraiment assez instantanée aussi, enfin même simultanée, c'était ok, bon ben c'était ce qui devait arriver. C'était hyper prévisible. Et limite j'étais étonnée que ce ne soit pas arrivé avant. Et je me suis dit, mais d'office, la réponse d'Israël va être terrible. Ça va être vraiment, ça va être vraiment terrible. Et du coup, on avait, je pense qu'il y a vite un bloc juif qui s'est créé. Et de là est né Ajab, en fait.
D'accord.
Mais le bloc juif et Ajab, c'est pas la même chose. Hein. C'est juste qu'il y a des membres du bloc juif qui ont... Voilà, ça a permis de se rencontrer aussi en tant que juif antisioniste de collectifs différents et de créer un nouveau collectif.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que hier il y avait une soirée organisée par Amnesty International en collaboration avec l'UPJB sur la question des refusniks,
oui.
Donc des gens qui refusent de faire leur service militaire en Israël et qui vont en prison pour ça.
Ouais.
Et il y avait Maya qui nous expliquait qu'en fait exactement la même chose que ce que tu viens de te dire, c'est-à-dire que ce 7 octobre n'était pas une surprise.
Oui.
Qu'il était évident qu'un jour, ça allait arriver. Mm-hmm. On ne savait pas le jour, on ne savait pas la forme, mm-hmm. mais c'était évident, mm-hmm. évident. Comme une casserole mise sous
exactement.
Pression qui, à un moment donné, mm-hmm. finit par exploser. Mm-hmm. Oui, ouais, tout à fait. Oui, c'est très intéressant. Est-ce que... Je regarde Hans, parce qu'il faut qu'on se...
oui, en fait, ce que... Je vois beaucoup le slogan, enfin, ou la phrase « pas en mon nom, not in my name
oui. »,
quand il y a des... comme le bloc juif ou dans d'autres contextes. Et ça doit quand même être spécial, parce que ici à Bruxelles, il y a tellement de communautés, de religions, de nationalités, mm-hmm. que, et en quelque part, on se sent quand même tous bruxellois.
Mm-hmm.
Et on ne réfléchit pas forcément d'où on vient ou le fait qu'on a une certaine religion. Parfois, c'est important pour les musulmans parce qu'il y a pas mal d'islamophobie quand même. Mm-hmm. Donc, quelque part, ils se sont un peu rejetés là-dessus. Mais le fait que quelque part, il y a un État au Moyen-Orient qui se revendique de votre identité mm-hmm. et qui essaye de s'en accaparer pour justifier des choses, mm-hmm. c'est quand même, ça veut dire que vous êtes quand même dans une position très spéciale.
Oui, oui. Et en fait, ce qui est, y a beaucoup de juifs, par exemple, qui sont antisionistes, mais qui vont pas s'exprimer de manière aussi audible, pas en mon nom, parce qu'ils se disent, mais ok, mais moi, je suis pas obligée de m'exprimer par rapport à ce qu'Israël fait, parce qu'en fait, je suis pas israélien et qui justement vont se dire, mais justement, moi, je refuse cet amalgame là, et du coup, je vais pas justement m'exprimer par rapport à ce qu'Israël fait. Parce qu'en fait, je n'ai rien à... un peu comme les musulmans qui étaient là, mais je n'ai pas à répondre des attentats terroristes faits en notre nom, quoi.
Exactement.
Et un peu ce même positionnement, ils étaient là... Il y en a qui avaient fait le choix de dire pardon, de s'excuser, de faire vraiment patte blanche, de vraiment essayer de prouver le plus possible que les musulmans ou que l'islam, ce n'est pas une religion violente, ou, etc., qui appelle au terrorisme. Y a des... Moi, je fais partie de ces juifs qui... Voilà, qui a besoin d'exprimer quand même cette différence-là. Et je comprends qu'il y en a qui n'aient pas envie de faire ce travail-là. Pas parce que c'est fatigant, mais parce que juste par principe, pour eux, Israéliens et Juifs, ce n'est pas la même chose, quoi. Mais malheureusement, comme je disais, il y a des conséquences. Il y a quand même des importations en Europe. Enfin, je veux dire, tout ce qui se passe en Israël est importé ici, quoi, parce qu'en fait, Israël se positionne comme... c'est une culture, on va dire... Enfin, c'est un projet, on va dire, européen, quoi, quand même. Et donc, l'Europe, elle soutient ce projet-là. Donc, il y a vraiment... nous, en tant que... Nous, on ne se positionne pas qu'en tant que juifs, mais en tant qu'Européens aussi, en fait, quoi. Et qu'on ne soutient pas ce que l'Europe fait, c'est-à-dire soutenir ce projet colonial, quoi.
Mmh. Moi, j'avais lu, alors je ne connais absolument rien à la religion juive, ouais. Mais j'ai lu il n'y a pas très longtemps qu'il y avait un concept qui s'appelle « réparer le monde ».
Oui, c'est Tikkun Olam.
Oui, j'avais trouvé ça très beau.
Ouais, oui. Oui, c'est un principe du judaïsme de réparation, de justice en fait. La justice est vraiment une valeur juive, enfin profondément juive. Et clairement, ce que le sionisme fait, c'est à l'inverse du judaïsme. Enfin, c'est une secte vraiment... Mais ça, j'en parle plusieurs fois, je pense, dans les épisodes du podcast. C'est une secte vraiment à part. C'est un néo... c'est même pas du néo-judaïsme, mais c'est une version... ouais, c'est pas le judaïsme. En tout cas, c'est une version vraiment secte. C'est une secte qui est issue de ça, quoi. Mais c'est pas... Et ils ont essayé d'inventer un néo-juif, en fait, le sionisme. C'est-à-dire, le juif, avant, il était victime toujours d'antisémitisme. Il ne savait pas se défendre, il n'avait pas d'armée, tout ça. Et en fait, le sionisme a créé un nouveau narratif, c'est-à-dire que le juif n'est plus une victime, il sait se défendre. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont adhéré au sionisme aussi. Ce n'est pas que parce que c'est des colons, ou etc. C'est juste qu'en fait, d'adhérer à une image de soi qui est plutôt de vainqueur plutôt que de victime, ça a séduit énormément de gens. Et Israël a créé ça, en fait, a changé un shift aussi. Donc, voilà.
Moi, j'ai peut-être une dernière question. Sans absolument te faire porter le poids de... C'est pas l'idée, vraiment, du tout. Mais il y a quand même une question qui est, quelle est ta vision du futur, en fait, en termes de paix ou en termes de ce qui va arriver après. Parce qu'en fait, une des choses qu'on fait dans cette émission, c'est aussi essayer d'envisager avec les invités l'après. Mm-hmm. Parce qu'on ne peut pas juste se permettre de dire... Enfin, il faut avoir les yeux sur ce qui se passe, il faut avoir les yeux grands ouverts sur ce qui se passe. Et puis en même temps, il faut avoir les yeux portés vers l'horizon, parce mm-hmm. qu'il y aura toujours un horizon. Et donc, ouais, qu'est-ce que...
Ben, moi... Moi, j'ai un avis qui est quand même assez influencé par les lectures que j'ai faites, genre de Ilan Pappé, Noam Chomsky, etc., et, ou Shlomo Sand. Mais moi, je suis pour moi, il faut qu'il y ait une réparation. Et par exemple, quand on voit ce qui s'est passé dans les Balkans, en ex-Yougoslavie, il y a énormément la discussion de la réparation qui n'a toujours pas été faite. Donc quand même, la réparation, c'est quelque chose qui est toujours très important quand il y a eu un génocide. Et je sais que la paix, elle n'arrivera pas tant qu'il n'y aura pas de réparation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'imagine indispensable pour qu'il y ait une coexistence pacifique au-delà de la justice qui est le retour des réfugiés, le retour sur les terres, la coexistence des Palestiniens et des Israéliens, quoi. Mais la notion de réparation, elle est hyper importante.
Il y a de l'espoir ?
Je ne sais pas. Moi, je ne pense pas que c'est ça la question, mais c'est... Ouais, c'est en tout cas plus qu'espérer, c'est vraiment essayer, quoi. Mais voilà.
Merci beaucoup.
Oui, merci beaucoup, Bella. donc, on arrive à la fin de l'émission. Demain, nous aurons Valérie Alalouf qui va parler avec nous sur...
Justement.
sur un après-génocide, notamment le cas du Rwanda, parce qu'elle a vécu... Elle travaillait au Rwanda juste avant et juste après le génocide. Et elle viendra... partager avec nous.
C'est un très bon lien avec, avec ce que tu viens de nous dire.
Okay.
Bah, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
À demain.
À demain.
Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire Bélux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30 et le week-end, de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre, 87.7 FM.
rediffusée sur Radio Panique 105.4 FM à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.